Les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à notre rencontre de ce soir qui est dédiée à la suite des 37 pratiques de Bodhisattva. Et tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire ou de vous rappeler de faire des souhaits pour un frère du Sangha qui vient de décéder, qui est Roberto de Varese. Donc voilà, j'ai oublié de vous le rappeler, même si j'y ai pensé, mais et vous, pensez-y et les jours suivants. Donc nous allons continuer les 37 pratiques de Bodhisattva avec la stance 16 qui continue dans les situations difficiles. Et écoutez la stance 16. Elle dit, si quelqu'un que je protège et que je chéris comme mon enfant en arrivait pourtant à me considérer comme un ennemi, tout comme une mère pour son enfant atteint d'une maladie, redoublé d'affection, telle est la pratique d'un bodhisattva. Donc, une personne que l'on aime, que l'on protège, que l'on chérit, comme son propre enfant, et qui pourtant viendrait à nous considérer comme un ennemi, à se retourner contre nous. Voir cette personne comme atteinte d'une maladie et comme une mère le ferait pour son enfant malade, l'aimer encore plus, le soigner encore plus, l'aider, redoubler d'affection, telle est la pratique d'un bodhisattva. Donc plutôt que de rejeter cette personne comme un ingrat, ou tout ce que l'on pourrait éprouvé pour quelqu'un à qui l'on a tout donné, que l'on protège et aime, et qui se tourne contre nous en nous rejetant comme un ennemi. C'est très douloureux, c'est injuste. Mais plutôt que d'avoir une réaction négative, cette personne l'aimait encore plus, comme si elle était atteinte d'une maladie, comme une mère qui voit son enfant malade, qui va pas, qui va le soigner, l'aider, tout faire pour le guérir et redoubler d'affection et de soins. Répondre ainsi à une injustice et une ingratitude par l'affection, telle est la pratique d'un bodhisattva. On comprend que celui qui a pour nous cette attitude est sous l'emprise de ses émotions, de sa confusion, de ses passions. Il est ainsi malade et souffre de cette maladie. Aussi être bon envers lui. Et la pratique du Bodhisattva, répondre à la malveillance par la bonté et la compassion, telle est la pratique d'un Bodhisattva. Et une personne ainsi qui s'élève contre nous comme un ennemi, comme un méchant, la reconnaître comme quelque chose de précieux qui nous permet de pratiquer, d'appliquer l'entraînement, de dépasser, de dissoudre nos blocages, l'honorer même ainsi, telle est la pratique d'un Bodhisattva. Ainsi, je vous la relis, si quelqu'un que je protège et que je chéris comme mon enfant en arrivait pourtant à me considérer comme un ennemi, tout comme une mère pour son enfant atteint d'une maladie, redoublée d'affection, telle est la pratique d'un Bodhisattva. La stance 17. Si vous avez des remarques ou des questions, nous les verrons à la fin. La stance 17 dit « Si une personne qui est mon égale ou qui m'est inférieure, sous l'emprise de l'orgueil, me manquait de respect ou m'injuriait, de la même façon qu'on le ferait envers son propre maître, placer cette personne sur sa tête, telle est la pratique d'un Bodhisattva. Donc, une personne qui n'aurait pas me manqué de respect, qui m'en égale ou même qui m'est inférieure, si dans son orgueil, cette personne me manquait de respect ou m'injuriait, c'est-à-dire, c'est vraiment inconvenant mais devant cette inconvenance, cette incivilité ou cette injure, placer cette personne sur sa tête comme on le ferait envers son propre maître, telle est la pratique d'un Bodhisattva. Reconnaître cette personne comme son maître, là aussi, m'amenant à la pratique, à l'entraînement, à l'humilité, m'incitant comme m'offrant un remède à l'orgueil. La respecter, l'honorer, la placer sur sa tête, comme on le ferait envers son maître, plutôt que de chercher vindicte, revanche ou de répondre négativement. Je vous la redis. Si une personne qui est mon égale ou qui m'est inférieure, sous l'emprise de l'orgueil, me manquait de respect ou m'injuriait, de la même manière qu'on le ferait envers son propre maître, placer cette personne sur sa tête, telle est la pratique d'un bodhisattva. La 18 nous dit, même dépourvu de ressources et toujours dénigré par les hommes, atteint d'une grave maladie et possédé par un démon, prendre encore sur soi les souffrances et méfaits de tous les vivants, ne pas pleurer ni se lamenter, telle est la pratique d'un bodhisattva. Même dans la pire des situations, dépourvu de ressources, sans rien, dénigré, et malade, et possédé par un démon, et encore prendre sur soi des difficultés, des souffrances, les méfaits de tous les vivants, être encore capable d'accueillir, sans pleurer ni se lamenter, telle est la pratique d'un bodhisattva. Ce courage, cette endurance, cette patience. Cette ouverture, cette abnégation, qui est, dans la pire des circonstances, sans pleurer ni se lamenter, est encore en plus capable d'accueillir souffrance et méfaits de tous les vivants. Je vois que Derin avait trouvé un texte, une illustration qu'elle aurait aimé nous faire partager. Je crois que c'est un texte de Bato Rinpoche.
Oui, exactement. Je n'aime pas le bonheur, mais la souffrance. Quand je suis heureux, mes cinq poisons augmentent. Et quand je souffre, j'épuise mon mauvais karma. Je n'apprécie pas les postes élevés, j'aime les plus bas. Quand je suis important, mon orgueil et ma jalousie augmentent. Quand je m'efface, je suis détendu et ma pratique spirituelle progresse. La place la plus humble est le trône des saints d'autrefois.
Voilà. Merci, très très bien. Donc, même dépourvu de ressources et toujours dénigré par les hommes, atteint d'une grave maladie et possédé par un démon, prendre encore sur soi les souffrances et les méfaits de tous les vivants, ne pas pleurer ni se lamenter, telle est la pratique d'un bodhisattva. Et la 19e stance nous dit, même célébré et réputé, porté au nu par beaucoup de gens, pourvu de biens comparables à ceux des enfants du Dieu des richesses, Réaliser que les richesses de l'existence sont sans essence, ne pas succomber à l'arrogance, telle est la pratique d'un bodhisattva. Donc même s'il est célèbre, réputé, porté au nu, riche, doté de biens incomparables, et être capable de réaliser que les richesses de l'existence sont sans essence, et ne pas succomber à l'arrogance, telle est la pratique d'un bodhisattva. Les richesses de l'existence sont sans essence et éphémères. Ne pas s'en enorgueillir et faire en sorte qu'elle soit source de passion, de vanité. Mais savoir utiliser ces richesses, ces biens, ce renom, savoir les consacrer au dharma, faire du bien aux autres avec eux, humble, sans succomber à l'arrogance, telle est la pratique d'un bodhisattva. Je vous la relis. Même célébré et réputé, porté au nu par beaucoup de gens, pourvu de biens comparables à ceux des enfants du Dieu des richesses, réalisé que les richesses de l'existence sont sans essence, ne pas succomber à l'arrogance, telle est la pratique d'un bodhisattva. Est-ce que vous avez des observations, des remarques ou des questions sur ces quatre stances?
Bonsoir Rinpoché. Je trouve que de la pratique 12 à la pratique 18, c'est quand même très très extrême. Enfin, moi je pense que c'est très difficile de l'appliquer. Et ça me fait penser à un livre que j'ai lu en partie, que j'avais donné à Jacques, qui s'appelle L'exemple de Jésus-Christ. Mais c'est très beau, mais franchement c'est vraiment très difficile. Enfin, ces stances-là, de 12, là, quiconque sous l'influence d'une irrésistible, jusqu'à la 18 après, c'est...
Là, je voudrais... C'est la pratique d'un grand bodhisattva qui a une abnégation complète, absolue, qui est mort à lui-même, à son ego, et qui a une énergie de compassion intense et rayonnante. C'est un vrai bodhisattva. Passez donc le bâton de parole, là, ben vous en avez un là-bas. Sunam.
Bonsoir. Par rapport à la dernière stance qu'on vient de voir, la stance 19, Est-ce que, afin d'agir en bodhisattva, est-ce qu'il faudrait en partie s'exercer comme patrouille de Rinpoche, à savoir il se déplaçait souvent avec des tonnes de richesses sur le dos et les cacher la nuit pour pouvoir dormir, en tout cas c'est, si ma compréhension est bonne, les cacher et aller dormir dans un autre endroit.
Et il cachait quoi ?
Ses richesses qu'il transportait sur son dos afin de pouvoir restaurer des vieux monastères.
Ah oui.
Est-ce que agir en bodhisattva, justement, ce serait se laisser dérober de ses richesses afin de se libérer de son lourd fardeau?
Agir en bodhisattva, c'est consacrer ses richesses en étant généreux pour aider ceux qui en ont besoin et en sachant aussi utiliser le pouvoir qui est celui des richesses. Les richesses sont une force, l'argent est une énergie. Savoir les utiliser au service du dharma, aussi bien pour faire du bien, être bienveillant et aider ceux qui peuvent en avoir besoin au niveau relatif, que aussi fondamentalement pour aider le dharma, son rayonnement et par là même tous les vivants. Ce qui est différent de faire du mauvais karma à des brigands en les encourageant à vous dérober ou à se laisser dérober. Par contre, comme le dit une stance que l'on a vue précédemment, si vous vous faites dépouiller, que vous restez en slip sur le bord de la route, offrir aux brigands qui vous ont dépouillé tout ce qu'ils vous ont volé et les remercier de vous avoir ainsi donné l'occasion de pratiquer le non-attachement et les voir comme un maître qui, sans lequel vous n'auriez pas pu ainsi vous entraîner, telle est la pratique de la bodhisattva. Voilà.
Bonsoir Rinpoche. Une question de Erwan de La Rochette. Enfin, deux questions.
Erwan de La Rochette. Oui, bonsoir Erwan.
Est-il juste et convenable de dire que la compassion des bodhisattvas, en dehors du fait que cela soit source de bonheur, est aussi le moyen technique de réaliser le non-soi?
Oui, la compassion, l'amour sont bons pour les autres, bons pour soi. Et un véritable amour, la véritable compassion qui se trouve dans le non-attachement, la non-saisie, et le non-ego sont la voie de la réalisation du non-soi. Et finalement, l'état de non-dualité, de non-moi, de non-soi et l'amour-compassion ultime sont une seule et même expérience éveillée.
Alors, il y a une deuxième question. Est-ce la compassion qui nous amène au non-soi ou le non-soi qui développe la compassion? Ou l'un et l'autre se nourrissent mutuellement?
L'un et l'autre se nourrissent mutuellement. Comme Tab et Sherab, comme masculin et féminin, comme les deux ailes d'un oiseau, comme les deux ailes du pratiquant qui lui permettent de s'envoler au firmament de l'éveil. s'il vous plaît.
J'aurais une question personnelle. C'est par rapport à la stance 16, donner encore plus d'affection. J'essaie de prendre soin d'une personne qui a fondamentalement pas confiance en moi. Et j'essaie. Donc je continue à faire de mon mieux, mais je sens qu'il y a la rancœur qui monte ou la lassitude de vouloir laisser tomber. Et comment faire, parce qu'on n'est pas des bodhisattvas, on apprend, et comment faire pour dépasser ce poison qui finalement nous envahit?
On n'est pas des bodhisattvas, on s'entraîne à devenir bodhisattva et on pratique sur les traces des bodhisattvas qui nous ont précédés. Leur exemple nous inspire, et patience et courage.
Et que faire de ces sentiments à l'intérieur? Parce qu'ils sont là, ils sont présents, et c'est, ça ronge en fait. Je ne sais pas trop. Je les laisse être.
La rancœur, si vous voyez la personne qui a ces attitudes comme étant dans sa confusion, dans sa souffrance, dans ses émotions, plutôt que d'avoir de la rancœur, c'est une forme d'agressivité à son égard, voir qu'elle souffre et que c'est... elle est comme un enfant malade. Elle est comme votre enfant que vous essayez de soigner, que vous soignez avec amour et qui ne s'en rend pas compte. Bon... Et qui, voilà, redoubler d'affection.
Donc en fait, on transforme son esprit en essayant en fait de revoir la situation sous d'autres points de vue, c'est ça?
Plutôt que
de fixer.
D'avoir un mauvais objet sur lequel on se fixe. De voir que l'autre est aux prises avec ses émotions, sa confusion, et qu'il en souffre, et avoir alors encore plus d'affection par rapport à sa confusion, sa souffrance, ses difficultés qu'il exprime maladroitement. Dans son attitude, effectivement, avoir retourné la situation ou transformé ainsi la situation change la relation complètement.
Merci. Une question de Simon, de Dinan.
Simon de Dinan, bonsoir.
En fait, dans sa relation aux autres, il dit bonsoir Rinpoche. Tout dépend comment cela est fait, donc notre relation, comment on se relationne à l'autre. Car dans certains cas, cela peut rendre quelqu'un furieux que de le considérer comme malade. Est-ce que vous ne trouvez pas cela?
Oui, mais il ne s'agit pas de dire à la personne, attends, t'es un pauvre malade, de toute façon, il faut que je fasse quelque chose pour toi. Non, n'agis pas avec condescendance comme ça, ou arrogance, de considérer l'autre comme étant malade, mais simplement de redoubler d'affection ou d'attention en ayant le percevoir comme malade et la façon pour nous de ne pas répondre négativement, agressivement, et d'avoir de la compassion pour sa maladie, mais sans du tout pour autant avoir une attitude hautaine, condescendante et arrogante. S'il vous plaît.
Une question de Sébastien du Beaujolais.
Sébastien, bonsoir.
Vous avez été témoin de ce qu'est l'abandon total en la personne de Kalou Rinpoché. Pouvez-vous nous en parler ?
C'est quelque chose qui est une expérience. Mais qui s'exprime dans les paramitas, dans les six paramitas, et dans les activités, les actions, les comportements de Bodhisattva. Dans une patience, illimitée, un courage illimité, générosité illimitée, discipline, stabilité, intelligence. Une inspiration et une présence transparente et rayonnante de bonté. S'il vous plaît.
Bonsoir. Vous venez de reprendre rapidement les six paramitas et j'ai l'impression qu'on oublie souvent la discipline, quoi qu'on oublie, que j'oublie aussi, et de l'importance de la discipline.
C'est une paramita qu'on oublie souvent, oui.
J'ai l'impression que je suis le premier à oublier souvent et que c'est plus facile de parler de peut-être de dons. De patience. Alors, je voudrais, si vous pouvez revenir sur l'importance de la discipline.
La discipline est ce qui nous permet de réaliser ce à quoi l'on aspire. Quoi que vous fassiez, il y a la méthode, et méthode et discipline sont très proches ici. La discipline est le moyen et la façon de faire qui dans une façon ordonnée, organisée, va permettre d'accomplir ce qui est à accomplir, d'arriver à son objectif, de réaliser ce que l'on souhaite réaliser, et de réaliser la réalisation. Donc, discipline qui évite ce qui est négatif, discipline qui développe ce qui est positif, une discipline qui œuvre pour le bien de tous les vivants. Non. Il y a différents aspects de la discipline qui est basée sur l'attention. Sans attention, pas de discipline. Et la discipline permet de cultiver l'attention aussi. Les deux se développent. Se développent ensemble. Et la discipline est celle de l'entraînement. Si vous vous entraînez, à la guitare, aux mathématiques, à la danse, au chant, à l'étude du dharma, ou à quoi que ce soit, quelle que soit la discipline dans laquelle, à laquelle vous vous entraînez, vous avez besoin pour vous entraîner dans cette discipline de discipline. De méthode, de rigueur, de moyens, de constance, tout ça, la discipline. La discipline n'est pas punitive, autoritaire, agressive, ou un carcan, un joug, quelque chose de lourd et de pénible. Bien compris, la discipline est ce qui nous permet d'accomplir ce qui est bon pour soi. Donc c'est le moyen de se faire du bien. C'est le moyen de se faire ce qui est bon. Redonnez-moi encore un petit peu, s'il vous plaît. De ce point de vue, la discipline est appréciée et honorée. Et plutôt que de l'oublier, et que ce soit la paramita dont on parle peu, c'est important de la mettre à l'honneur et de la cultiver. Le Bouddha a légué trois corbeilles, le Vinaya, les Sutras et l'Abhidharma, trois compendiums qui regroupent tous ses enseignements. Le premier est sur la discipline, Vinaya. Le deuxième, ce sont des situations où il donna divers enseignements. L'Abhidharma, c'est la phénoménologie, la compréhension de la structure, la nature de la réalité. Mais c'est juste pour dire que parmi les trois compendiums, les trois collections, il y en a une complète qui est consacrée à la discipline. On a la discipline de la pleine présence, la discipline de l'attention, la discipline de la vigilance, la discipline qui permet le discernement, la discipline de pratique dans la régularité, sans discipline, mais il ne se passe rien du tout. La discipline en tibétain se dit tsulchim. Tsul, c'est la façon de faire, et chim, c'est la règle. Donc ce sont des règles de conduite. Mais pas seulement des règles de politesse ou de bienséance, mais toutes les méthodes, moyens qui ordonnent, organisent notre conduite, notre comportement et nous permettent de bien faire. C'est vrai dans les choses du monde, c'est vrai encore plus dans le dharma. Et la discipline est celle du rappel. Se rappeler d'éviter ce qui est négatif, de cultiver ce qui est positif, d'agir en bodhisattva, de se rappeler les instructions, le rappel de la vigilance, le rappel de la pleine présence, cette discipline du rappel. Donc voilà, vive la discipline. S'il vous plaît. Oui.
Petit. J'ai l'impression que la discipline, ça inclut aussi le courage et la non-peur.
Oui, il faut du courage, de la rigueur, et ne pas être dans la peur. Dans l'auto-indulgence, la paresse. Il y a dans la discipline une résolution, elle vient d'une détermination, d'une motivation. Mais la motivation trouve le moyen de se réaliser dans et par la discipline, avec courage, force, énergie, vaillance et non peur. N'ayez pas peur de la discipline. S'il y a bien une chose dont il n'y a pas à avoir peur, c'est de la discipline. S'il vous plaît. Oui.
Une question de Raguier d'Annecy.
Pardon ?
De Raguier peut-être.
Raguier
d'Annecy. Si la relation génère chez soi du poison, même si l'on
la
voit...
La relation ?
Oui. Donc c'est quand on est en relation avec quelqu'un, une interaction. Génère chez soi du poison, même si l'on voit la personne en souffrance et que l'on n'arrive pas à gérer et à avoir assez de compassion... Pour pouvoir agir de façon juste, n'est-il pas sage de s'éloigner de cette personne et de pratiquer Tonglen ?
Il est toujours sage et bien de pratiquer Tonglen, ce qui permet de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit, de dépasser ses limites, d'accueillir la situation et de pouvoir s'y donner vraiment... Sincèrement, donc oui, pratiquer ton Tonglen et s'il y a pas de rien de bon, de solution de qui puisse vraiment se développer. Ne pas se laisser emporter par de mauvais amis qui empoisonneraient de façon dommageable et qui feraient deux morts et deux noyés à ce moment-là. Ne pas suivre les mauvais amis est aussi la pratique d'un bodhisattva. S'il vous plaît. Je vous invite à un petit moment de respiration des rimes.
Juste si vous voulez peut-être annoncer les modifications de, dans la programmation de la fin de la semaine, puisque vous serez absent.
Parce qu'on peut... fera ça juste après, après la...
Très bien, merci.
Un moment de respiration, justement dans l'expérience de ton laine. Accueillir, offrir, associer au souffle. Accueillir, signifiant accueillir ce qui est en, ici, présent, à l'instant, quoi que ce soit. Et offrir, s'offrir, s'abandonner à ce qui est, tel que c'est ici dans l'instant, quoi que ce soit. Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Derine, dites-nous alors, s'il vous plaît.
Mais vous allez partir en Champagne?
Je vais partir en Champagne.
Ça se dit pas comme ça.
Voilà une idée. Dans l'est de la France, oui, et je serai absent jeudi soir. Et vendredi, nous aurons en direct de Champagne un webcast.
Oui.
Très bien.
En essai, en fait. Et...
Alors, même ceux qui sont ici en Avallon me verront?
En fait, on va essayer d'installer un projecteur si quelqu'un sait le faire, mais je pense que dans notre service technique, ça va être possible, ici, dans la Maison de la Sagesse.
Un projecteur?
Oui, il y a un écran et... Enfin, je ne sais pas comment ça va se faire. Enfin, je laisse les garçons s'occuper de ça.
Ah ben, il suffira de mettre l'écran ici, voilà. Et puis, comme ça, j'apparaîtrai en hologramme. Ou en tout cas... Très bien, bravo.
Voilà. Donc juste pour dire que jeudi soir, il n'y aura pas de webcast.
Vendredi. Pour,
et vendredi et samedi soir, probablement, ça va se faire.
Ça va se faire.
Voilà.
Très bien. Donc, en direct de Champagne pour cette fin de semaine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonne soirée, que tout soit propice. Bonsoir.